On parlait tout à l'heure des somnifères. Est-ce que ça peut être l'occasion justement de se rééquilibrer, de diminuer un peu les doses ou de
Oui, alors en fait, c'est
ce qui dans le temps.
Oui. On parle du bonheur et on évoque les somnifères. C'est un peu contradictoire. C'est un peu, quand j'ai été invité, je me suis dit, moi, avec la détresse, qu'est-ce que je viens faire parler du bonheur? Mais je crois qu'effectivement, l'anxieux, moi, je connais bien les anxieux, hein. J'en suis peut-être un qui s'ignore, mais l'anxieux, il a du mal avec le bonheur. Bon. Mais quand on n'est pas anxieux, on a accès au bonheur plus facilement. Je crois que à la base du bonheur, il y a une chose importante qu'il faut dire, que ce soit le bonheur en hiver, en été, au travail, en famille, c'est qu'il y a une aptitude au bonheur qui se crée dans les trois premières années. Qui se crée par le phénomène.
Entre 0 et 3 ans.
Entre 0 et 3 ans.
Ah oui.
Il y a une aptitude au bonheur qui est favorisée par l'environnement dans lequel on est élevé.
Donc il y a une responsabilité de la famille qui est incroyable.
Je crois qu'il y a. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais il y a quand même. Moi, je vois en tant que psychiatre, quand même, beaucoup de mes patients qui ont du mal justement à accéder au bonheur. Ces patients qui ont eu, quand même, durant leur enfance, des problèmes avec l'attachement parental. Mais ce n'est pas la majorité de la population. Je crois que la majorité de la population, elle est plus simple. On ne la voit pas, au fond. Et quand j'évoquais les terrasses de café, ces jeunes dans les terrasses de café, ben on ne les voit pas. Ils vont pas si mal. Mmh. Alors, ceux qu'on voit, ils vont moins bien, effectivement. Ceux qu'on voit, ils vont moins bien. Mais
oui, vous, les patients, vous voulez dire que vous recevez,
voilà,
c'est ça?
Voilà, ils vont moins bien. Mais il y a une créativité qui est préservée, une vie. Donc, je crois qu'il faut avoir en tête que il y a malheureusement une frange de la population qui a un accès au bonheur qui est moins facile. Il y a une aptitude qui ont moins.
Isabelle Payot, vous vouliez compléter sur ce thème.
Il y a eu des études qui ont été faites qui montraient que notre capacité à être heureux, donc le bonheur, notre capacité à être heureux, est à 50% génétique. Alors on se dit, si je n'ai pas tiré la bonne famille, je suis mal, parce que ça fait quand même 50%. Mais 50%...
Non, mais attends, excusez-moi, je n'ai pas dit que c'était génétique, j'ai dit que c'était l'environnement familial qui crée ça.
Oui, oui.
Ça, non, je crois qu'il faut très, très...
je parle d'une autre étude, oui, Antoine. Je parle d'autre chose.
Affrontement d'études, attention, on est passé au débat.
J'entends la question de l'environnement.
Parce qu'on ne sait pas, ça l'aspect génétique, je suis d'accord. On ne sait
donc,
pas.
Là-dessus, on n'a pas la main, donc voilà, plus ou moins 50%. 10% de notre capacité à être heureux, c'est lié à des conditions extérieures. Donc ça veut dire que si on voit, je ne sais pas quoi, des milliardaires sur leur yacht, ça contribue qu'à 10% si on a envie d'être sur un yacht, bien évidemment. Et il reste donc 40% qui sont pleinement à nous, qui se travaillent, qui vont être notre capacité à mettre en place des choses qui nous font du bien, à regarder ce qui va bien, comme on disait tout à l'heure, et à nourrir cette partie-là. Donc ça donne quand même la main largement sur notre capacité d'agir sur notre bonheur individuellement et collectivement.
Alors, autre question, est-ce qu'il faut changer ses habitudes? Est-ce que c'est une bonne stratégie, Catherine Aliotta?
Il faut changer ses habits. Si on n'est pas heureux, oui, je pense qu'il faut à un moment donné décider de faire autrement. En fait, le bonheur, ça se décide aussi. Enfin, souvent, moi, j'ai tendance à dire, on peut décider aussi d'être heureux un jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la vie dans laquelle on est ne nous satisfait pas, pour mille et une raisons, je pense que c'est important de se dire à un moment donné, pourquoi, par exemple, je ne trouve plus de sens dans mon travail, ou pourquoi je ne suis plus épanouie quand je suis en famille, ou pourquoi, lorsque je suis en vacances, je m'ennuie. C'est peut-être parce que finalement, je ne me suis pas construit une vie qui correspond à ce que moi, j'ai envie de faire et à ce qui correspond à ce qui me fait du bien. Et souvent, c'est un peu ça la difficulté. C'est-à-dire que les gens se créent un univers, parfois en... J'explique les réseaux sociaux parce que souvent c'est un élément de comparaison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que d'être heureux, c'est ce diktat qu'on me montre là, alors que c'est pas forcément ça le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est peut-être tout autre chose. Finalement, d'être superbe en maillot de bain, j'en sais rien, au bord d'une piscine, avec un cocktail, c'est pas ça moi qui me rend heureuse. Peut-être que moi, ce qui me rend heureuse, c'est de marcher dans la montagne au milieu des chamois. Oui. Eh bien, ça, c'est aussi s'interroger sur ce qui me convient moi. Au fond de moi, libéré de tous ces jugements ou de tous ces diktats que je me suis mis, et à partir de là, eh bien, décider effectivement de mettre en place toute une stratégie qui va me permettre de cultiver toutes ces choses qui me rendent heureux. Et juste pour dire, le bonheur, c'est aussi la comparaison avec parfois être malheureux. Oui. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est difficile de se rendre compte du bonheur si on n'est jamais malheureux. Donc là aussi, c'est accepter de ne pas être toujours heureux et de se dire que le bonheur, c'est pouvoir passer par toute cette échelle des émotions, toute cette variation finalement d'humeur qui nous permet à un moment de se dire « Ah là, je suis sur un moment qui est super agréable. Allez, je le capitalise.
Alors, est-ce que l'un des secrets en vacances pour justement goûter au bonheur, c'est pas de se déconnecter ? Vous en parliez tout à l'heure avec les réseaux sociaux.
Oui, ça peut bien sûr être à un moment donné, se dire je me coupe de tout ce qui d'habitude m'oppresse et je passe sur un autre rythme de vie.
Alors c'est très bien, hein, c'est très bien de le dire, mais comment faire ?
Ah, comment faire ? Alors déjà en essayant...
Est-ce qu'il faut faire une déconnexion totale ou alors essayer de garder une heure deux heures par jour ?
La déconnexion totale, elle est compliquée parce qu'il y a un moment donné, on peut avoir des obligations. Je pense qu'il vaut mieux se dire, je le fais de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans ma journée, je vais organiser mon temps en se disant, là je suis en vacances, donc la grande partie de mon temps, c'est de faire des choses qui me font du bien. Et s'il est nécessaire pour moi, aussi pour m'apaiser le soir et bien dormir, de jeter un œil sur ou de répondre à un mail parce que c'est nécessaire, parce que d'autres choses tournent, eh bien je peux aussi le faire. Mais dans des moments qui soient évidemment encadrés et volontairement mis entre parenthèses, où on annonce à tout le monde que pendant un temps, on s'accorde ce temps-là, parce que c'est aussi une façon pour nous de nous rassurer, de nous sentir bien.
Oui, parce que se retrouver avec 10 000 mails quand on revient 3 semaines plus tard, ce n'est pas forcément non plus une bonne rentrée.
Tout à fait. Et puis, ce que j'allais dire, les vacances, ça se prépare. Souvent, moi, j'ai tendance à dire, ce n'est pas le dernier jour qu'on prépare des vacances. Idéalement, c'est de pouvoir s'organiser au moins les 15 jours ou 3 semaines avant son départ, en se disant déjà dans l'anticipation de ce qui va se produire. Je me prépare à partir en vacances. Je n'ouvre pas de nouveaux chantiers qui me demandera d'être hyper présent parce que je ne vais pas pouvoir l'être. Je ne vais pas mettre en place des deadlines que je ne pourrais pas respecter parce que tout ça, ça me fait monter en pression. Et du coup, je passe les 10 premiers jours de mes vacances à faire baisser la pression que moi-même, je me suis mis avec des obligations que j'aurais pu évidemment... Alors, dans la mesure du possible, il y a parfois on a des obligations auxquelles on est obligé de répondre, mais il y a plein de fois où on peut aussi commencer à décompresser avant d'être en vacances.
Alors vacances qui vient du latin vacare, comme vous le savez tous, qui signifie être vide, être libre. Comment réussir ces vacances en famille, Isabelle Payot, c'est plus compliqué ou pas ?
C'est pas plus compliqué, comme disait Catherine, ça se prépare. C'est-à-dire qu'en vacances, ça ne va pas toujours être les mêmes qui vont scoltiner les tâches ménagères, par exemple. Parce qu'il s'agit
comme le reste de l'année, non ?
Voilà, il ne s'agit pas de ramener la maison autre part, finalement. Alors, il fait beau, il y a du soleil, il y a peut-être une piscine, mais finalement, on se rend compte que c'est toujours un peu les mêmes qui font la cuisine ou la vaisselle, etc. Donc, on va expliquer ensemble. Si on met pas un tableau, en tout cas, on pose des règles qui est que vraiment, on va tous participer parce que on a tous besoin de ces vacances-là et c'est nécessaire pour tout le monde. Donc, quand on fixe ça, quand on fixe ces règles-là, en général, il n'y a pas de souci. Après, on n'a pas besoin de râler. On rappelle juste la règle s'il y en a un qui a oublié et qui s'est endormi sur son transat en disant c'est ton tour d'aller préparer à manger. Donc, c'est simplement de s'organiser et de s'autoriser à ce que tout ne soit pas parfait. C'est vrai que souvent, les parents ont envie, dans la vie quotidienne, que tout soit parfait, c'est timé, on court, il y a les activités. Mais là, il n'y a plus ça. Donc, il va y avoir la montre, mais on ne va pas trop la regarder. Mm-hmm. Et on va se laisser faire par le temps.
L'été, et surtout pendant les vacances, d'enlever la montre.
Mais oui, il faut enlever la montre parce que c'est si on prend les vacances, et la pire des choses, c'est les vacances où on veut absolument optimiser au maximum ses vacances. On revient épuisé. Alors, on a vu plein de choses, mais les gamins n'en peuvent plus. Donc, ça ne sert à rien vraiment. Donc, on lâche le temps, on lâche la pression, comme disait Catherine. On prend le temps de vivre et on prend le temps de se voir, de se rencontrer, de faire des choses ensemble.
Et l'Internet, alors en vacances, faut-il garder de l'Internet ?
Non, le mieux, c'est de louer une maison au fin fond de la Creuse, où il n'y a pas du tout de réseau.
Mais vos enfants ne viendront plus jamais avec vous ?
Si, si, ils viennent encore et on dit vraiment, je suis désolée, j'étais persuadée qu'il y avait le Wi-Fi, et là, il n'y a rien du tout. Et vous allez voir qu'au bout de quelques temps, même une journée, deux, ils vont retrouver les jeux de cartes, les jeux de société, on va se balader, on fait du vélo. Les gamins, dès qu'ils lâchent leur téléphone, ils savent retrouver autre chose. Il ne faut pas croire qu'ils sont complètement addicts à ça. Nous, les adultes, on est peut-être même parfois plus addicts au téléphone et aux réseaux sociaux que les enfants.
Alors, j'ai fait ça en Ardèche il y a 2 ans, mais je peux vous dire que mes enfants à la fin m'ont dit « on n'y retourne plus jamais ». Vous voyez, c'est risqué, c'est compliqué.
Moi, je pense que c'est risqué, mais ce qui est important de se dire aussi, c'est que les vacances, c'est peut-être un moment... Justement pour créer des moments de bonheur et des moments de partage, parce que c'est surtout de ça dont on va se souvenir, c'est aussi d'être force de proposition parfois, de faire des choses en collectif. C'est-à-dire que très souvent dans notre quotidien, on est les parents, les enfants d'ailleurs, peu importe, mais on est chacun dans notre travail, on est chacun dans nos impératifs, on est dans nos quand on est enfant, nos préoccupations avec nos copains et nos copines de l'école, du collège, du lycée, les parents dans le boulot. Finalement, on se retrouve le soir, plus ou moins fatigué, on a plus ou moins envie de partager. Parfois plutôt moins que plus d'ailleurs.
Et donc il faut se faire une liste d'activités ou plutôt se laisser aller?
Non, je pense qu'il ne faut pas se faire une liste. Il faut se dire à un moment donné, tiens, comment on peut recréer des choses ensemble? En fait, il y a des jeux qui sont très drôles. C'est-à-dire qu'un temps de piscine, ça peut être très drôle en famille. On n'est pas obligé de nager. La piscine, on peut sauter les uns sur les autres.
Faire des parties de water polo.
Voilà, on peut décider de faire un volet même si on joue mal. On peut décider d'apprendre au petit dernier, j'en sais rien, moi, à faire du vélo à ce moment-là. C'est recréer en fait une dynamique de groupe au sein de la famille.
Et demander à chacun ce qu'il a envie de faire aussi et de proposer. Ouais, c'est-à-dire que peut-être que le petit dernier voudra aller dans un parc. Tout le monde n'aura pas très envie, mais on ira pour lui.
Eh bien, un grand merci à tous les trois. Vos conseils nous sont précieux. Je vais les résumer en 15 secondes. Arrêter de cogiter, se laisser vivre, respirer, aller vers l'autre, faire un bilan, enlever sa montre et se déconnecter au moins partiellement des réseaux sociaux et puis de l'Internet. Un grand merci. Dans quelques instants, vous allez retrouver comme chaque soir les docteurs du Tour sur Europe 1, Axel May et Richard Virenc pour le Club Tour en direct de Cahors. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez partager votre bonheur tout à l'heure dès 22h sur Europe 1 au micro de Valérie Darmon, appelez le 3921. C'est la libre antenne d'Europe 1, elle est ouverte, elle vous attend de 22h à minuit. Bonne soirée et très bel été sur Europe 1.